Bonjour à tous. Tout le monde va bien?
Oui.
Fait que le sujet ce matin, c'est préparer à faire de bonnes œuvres. On voit qu'il faut être toujours prêt à donner un coup de main aux gens qui sont dans le besoin. C'est ça que le Seigneur nous demande. Fait qu'on va prier. Merci Seigneur Dieu de nous avoir réunis. Merci Seigneur que tu nous donnes la force aussi d'agir. Tu nous as donné des dons Seigneur et tu veux qu'on loue ton nom. Fait que, aide-moi dans ce message pour que je puisse le partager comme ce serait toi, Seigneur, qui parlerais. Je t'en remercie. Amen. Éphésiens 2.10, c'est sur le verset que j'ai pris pour ça. On connaît tout Éphésiens 2.9, hein? Éphésiens 2.10. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Donc, Dieu veut qu'on s'implique à faire des bonnes œuvres. C'est clair, il nous dit. Puis, il a tout préparé d'avance. On voit ça aussi dans le titre, si vous voulez prendre des notes. Celui qui prend des notes, dans le titre 3-8, qui nous rappelle ceci. Donc, travailler avec notre Papa Céleste. Beaucoup peut-être ont pris plaisir à travailler avec leur père. On a appris des choses. C'est ainsi qu'en travaillant avec notre Papa Céleste, qu'on apprend bien des choses et ça forme notre caractère aussi. Hein? Pensez-vous qu'il y a besoin d'être formé un peu, notre caractère? Beaucoup. On apprend aussi à semer l'amour en étant près de Dieu. On apprend beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et c'est Dieu qui a tout préparé. Donc, il nous suffit d'agir par la foi avec toutes ces ressources-là qu'il a mises à notre disposition. Ce sont là les ressources. On n'a qu'à les prendre. Puis nous rendre disponibles, ça va porter de la joie dans notre cœur. Quand on fait des choses pour le Seigneur, vous savez, hein, ça nous apporte de la joie dans notre cœur. C'est un aspect important de la vie chrétienne. Même si c'est écrit, je ne sais pas ça devant moi, là, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? En passant, hier, il y a trois personnes qui débarquent chez nous hier soir. On se demandait c'était qui. Et des gens, des Tunisiens. C'est assez rare, hein? Là, c'est des gens un peu foncés, fortement, mais qui avaient un gros chapeau. Et ils cognent, ils disent oui. Ils disent, j'ai remarqué que vous avez du bois chauffard à l'arrière. Ils ne veulent pas monter à ça en Tunisie, certains. Hein? Oui, il dit, on est campé au lac frontière, puis on aimerait bien vous acheter un peu de bois de chauffage, faire un petit feu, des épiceries, c'est tout des petits bois. Je lui dis, ouais, pas de problème. Et je lui dis, venez, là, il y a trois monsieur qui nous suivent, ma femme, elle vient aussi. On sort la barouette, en plus la barouette, il y avait un homme qui était gros, il était gros, amène la barouette, la brouette, vous parlez comme faux. Il était tout content, il était tout content. Il dit, comment qu'on doit? Je lui dis, tu loueras, Seigneur, mais que le feu brûle ce soir, là. Tu loueras, Seigneur. Fait qu'elle est partie avec ça. Oui, oui, fait que. Mais ça pour dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein? C'est moins qu'on rentre dans les œuvres de Dieu. C'est ainsi que l'enfant de Dieu éprouve une grande joie à vivre sa vie chrétienne. En apprenant à marcher dans la volonté de Dieu, bien, ça transforme notre vie. Ça transforme notre vie. Chaque jour, c'est un jour nouveau. On apprend, en marchant tout près de Dieu, on apprend à chaque jour, à chaque jour. Puis Jésus nous dit, vous porterez beaucoup de fruits et ça va glorifier mon Père. Est-ce qu'on veut glorifier le nom de Dieu? C'est sûr, hein? On est ses enfants. Fait que c'est dans ce sens-là. Et passez une petite histoire, très courte pour nos œuvres, faire des bonnes œuvres. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Il était un petit peu mal commode, espié, hein? Il était mal commode un peu. Il dérangeait constamment à l'école du dimanche. Ça, ça n'arrive jamais, là, mais cette place-là, ça arrivait. Donc, il y a une photo de petit gars espié un peu. Là, je ne cherchais pas une ressemblance à l'assemblée. Hein? Il n'y en a pas. Donc, il causait vraiment la frustration du moniteur. Un matin, le moniteur lui posa une question. « Pourquoi te conduis-tu de cette façon-là? » « Ne sais-tu pas c'est qui t'a fait? » Le moniteur voulait qu'il réfléchisse à sa conduite, qu'il ne glorifiait pas Dieu. Il dit, « Regarde, tu déranges tout le monde. » Ça ne glorifie pas Dieu, ça. Le garçon lui répondit, « C'est Dieu qui m'a fait. » Il savait. Mais, il dit, « Il n'est pas encore fini avec moi. » Il était en construction. Fait qu'il y avait de la misère pour le petit gars. Ça bougeait en dedans de lui, puis il n'était pas capable de rester assis. Hein? Fait qu'il s'élevait. Il dit, « Le Seigneur n'est pas fini encore. » Il a patience envers moi. Ayez patience envers moi. C'est vrai que nos bonnes œuvres ne sont pas toujours bonnes. Hein? On dit que nos œuvres ne sont pas toujours bonnes. Mais notre Dieu, comme un diamantaire, il prend un diamant brut et le transforme en un joyau d'une grande valeur. Ça prend du temps. Ça prend un certain temps. Fait que faites-vous un pas des fois que vous en avez peut-être aspiré un petit peu. Là. Dieu est en train de travailler dans nos cœurs. Hein? Dieu nous a pris tels que nous étions des pécheurs. Puis il nous transforme à l'image de Jésus. Puis ça peut prendre du temps. Mais il va servir de toutes sortes de moyens pour nous amener comme ça, à l'image de son Fils. Qu'on soit sage en tout temps. 1 Corinthiens 3, 12 et 15. Il est écrit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'il se révélera à travers dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Donc, on voit que Dieu veut qu'on réussisse notre vie. Ça, c'est sûr. Dieu veut qu'on réussisse notre vie. Comme n'importe quel parent qui veut que son enfant réussisse dans sa vie. C'est un bon projet, n'est-ce pas? Dieu veut que chacun de nous ait une vie qui soit réussie. Mais c'est quoi une vie réussie selon le Seigneur? C'est quoi une vie réussie? Une bonne question, hein? Réussir sa vie consiste à laisser Dieu accomplir son plan qu'il a tracé pour nous. Rappelons-nous ceci. Réussir sa vie consiste à laisser Dieu accomplir son plan qu'il a tracé pour nous. Cela n'a rien à voir avec la richesse, la connaissance d'un niveau de vie très élevé. Beaucoup de gens ont toutes ces choses-là, mais au fond, ils sont très malheureux. Ils sont très malheureux et ont raté leur vie. Rien au monde nous apportera plus de satisfaction que de savoir que nous faisons la volonté du Seigneur. Rappelons-nous ceci, c'est très important. C'est ça qui va nous rendre la joie. La joie chrétienne vient en obéissant à Dieu et non en vivant selon notre convoitise, nos convoitises charnelles. Laissez Dieu prendre la direction. Il sait où nous conduire pour qu'on soit heureux, puis que les gens autour de nous aussi soient heureux. La Bible nous dit de construire notre vie sur le roc. Et le roc, c'est le Seigneur. Le chef religieux dans le temps d'Israël ont construit leur vie sur un système religieux. Et qu'est-ce que ça fait? Ils ont bâti sur le sable. Hein? C'était une religion. Ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. C'est ça qui est important, d'avoir une relation avec Dieu. Bien des œuvres, humainement parlant, sont très impressionnantes. On pense juste aux sept merveilles du monde. Hein? On voit ça, waouh, les pyramides, c'est-tu grand? On voit qu'il y a des choses impressionnantes dans le monde. Souvent, elles sont faites pour apporter la gloire simplement à l'homme. Quand Dieu va éprouver ces œuvres-là, ça va révéler par le feu de quelle œuvre il s'agissait. Le feu va brûler tout ce qui a été fait pour ma gloire, pour mon orgueil, pour mes intérêts à moi-même. La triste réalité est que beaucoup construisent ce qui ne correspond pas à ce que Dieu avait prévu pour leur vie. Ce n'est pas ça que Dieu avait prévu, mais on construit dans cette façon-là. Le monde, lui, va regarder ça, il va dire, « Hey, lui, il a réussi sa vie. As-tu vu la maison qu'il a là? As-tu vu qu'il fait des voyages toutes les années à travers le monde? Il a la connaissance, il parle plusieurs langues. Mais est-ce que c'est vraiment ça, réussir sa vie? Ça se peut. Si Dieu t'a amené ça, mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est pas ça. C'est un peu comme le raisonnement de l'homme riche. Vous savez qu'on voit dans Luc 12, hein? Il a dit, j'ai de l'abondance. On va régrandir mes greniers, puis je suis tellement dans l'abondance, je vais prendre ma retraite. Là. Hein? Mais le Seigneur, il dit quoi? insensé. Cette nuit même, ton âme va te redemander. Tout ce que tu as fait, ça va aller où? C'est pas ça que je t'avais appelé. C'est pas ça que je t'avais appelé. Insensé. Ça serait triste d'arriver devant Dieu, hein? Seigneur, j'ai réussi ma vie, gars, ce que j'avais. Seigneur dirait insensé. C'est pas ça que je t'avais demandé. Ça serait triste, ça. Sur terre, vous savez, on ne vit qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est l'éternité. En passant, j'avoue que le taux de mortalité sur terre, comme qui est, pensez-vous qu'il est à 80 % Le taux de mortalité sur terre, je vous le rappelle, est à 100 % Tout le monde meurt. Oublions pas ça, hein? Le taux de mortalité est à 100 % Fait que on va tout laisser un jour, c'est sûr. Si on se fait des gros châteaux, là, pensez à ça. Dieu nous appelle à construire et non pas à détruire notre vie. Sur quoi est-ce que je bâtis ma vie en ce moment? C'est à nous de réfléchir. Nous bâtissons bien notre vie en marchant dans les voies de Dieu. Il est écrit, « Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Sinon, que tu le craignes, l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu le serves de tout ton cœur. » Dans Deutéronome 10, 12. Donc, nous allons voir un homme du nom de Salomon. L'Éternel lui avait préparé d'avance le chemin pour qu'il réussisse sa vie. On étudie Éphésiens 2, 10. On voit que Dieu avait préparé des œuvres pour que cet homme-là réussisse sa vie, qui marche dans la sagesse de Dieu. Mais est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ce choix-là? Ecclésiastes chapitre 2, le verset 17 et 18. C'est Salomon qui parle. Il dit, « J'ai haï la vie. » C'est spécial, hein? « Car ce que j'ai fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. » J'ai haï, il a dit une fois, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Salomon, il possédait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein? Toutes les richesses de la terre, on peut dire. Il en avait l'argent, c'était rendu comme, c'était l'or qu'il regardait. Il regardait même plus à l'argent, ça ne valait pas la peine. Il ramassait juste l'or pratiquement. Il avait la renommée. Il y avait la gloire, il y avait les chars et les chevaux. Aujourd'hui, on dirait des automobiles de luxe, on dirait des jets, il y avait toutes ces choses-là. Des palaces, des bijoux, il y avait l'amour aussi, on peut dire. Hein? Il y a eu combien de femmes? 1000 femmes, hein? 1000 femmes. Aussi, il y avait la sagesse, la connaissance, il y avait une picorgo. Aujourd'hui, ça se bat pour le pouvoir. Il avait le pouvoir. La Bible nous dit qu'il était le plus grand de tous les hommes de la terre. 2 Chroniques 9, 22, vous pourrez lire ça. Mais on voit ici qu'il exprime sa déception, son insatisfaction par ces mots. « J'ai haï la vie. » Spécial, hein? Un homme qui a tout, il dit « J'ai haï la vie, vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. » On peut dire que Salomon avait réussi dans la vie, mais au final, il n'a pas réussi sa vie. À un tel point qu'il a détesté, puis il a détesté tout le travail qu'il avait fait. Ça, là, on ne peut pas dire qu'il y avait une autre plus que Salomon, puis c'est pas, ils n'ont pas aimé ça. Blaise Pascal, peut-être que vous connaissez cette parole de lui, il a dit « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide » en forme de Dieu, un vide spirituel qui ne peut être comblé par rien d'autre que par Dieu. Et ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est vrai. Réussir sa vie, c'est permettre à Dieu d'occuper la place qui lui revient dans notre cœur. Que Dieu règne sur mon cœur. C'est là que je vais avoir réussi ma vie. Chaque jour, c'est Dieu qui est aux commandes, qui règne dans mon cœur. Ça, c'est quelqu'un qui réussit sa vie. Comment Salomon est-il arrivé à détester sa vie? Pourquoi il a détesté sa vie? La réponse, on la trouve dans 1 Roi, chapitre 11, versets 9 et 10. Il est écrit, « L'Éternel fut irrité contre Salomon. » Vous voyez pourquoi? Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui avait été apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais, mais, Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Il n'a pas écouté. Salomon a ruiné sa vie en négligeant la sagesse de Dieu qui était offerte. Il n'a pas écouté. Ça a détruit, on peut dire, sa moralité. Il est venu, moi, mon week a pris un coup. On ne veut pas rentrer dans les détails, là, mais ça a vraiment détruit sa moralité. L'homme le plus intelligent, le plus riche, le plus comblé, humainement parlant, qui a vécu sur terre, a détruit sa vie. En dépit de tout ce que Dieu lui a donné à Salomon, il finit par faire ce que les rois d'Israël avaient l'interdiction de faire. Il a multiplié ses richesses personnelles, puis les épouses, ceux qui n'avaient pas le droit de faire. Un harem de 1000 femmes. Il construisit des autels aux dieux païens et participa lui aussi. Vous pouvez voir ça dans 1 roi 11, versets 1 à 8. Ça l'a amené à un déclin terriblement de sa vie spirituelle. Nous devons nous rappeler que peu importe depuis combien de temps qu'on suit Seigneur, depuis combien de bonnes œuvres qu'on peut avoir fait, on peut être un prédicateur, un pasteur d'une église, et ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Il faut être toujours sur nos gardes, toujours sur nos gardes. On est toujours vulnérable ici-bas sur terre. L'esprit est bien disposé, hein, c'est écrit, mais la chair est faible. Pourquoi on oublie ça? L'ennemi sait que détruire quelqu'un qui marche fidèlement avec Dieu, hein, quelqu'un qui fait des années qui marche fidèlement avec Dieu, ça va produire comme un éclat d'obus dans l'Église. Quand il y a un personnage important qui s'est impliqué dans l'Église et qui tombe, c'est pas comme on se lancera une grenade dans un appartement, qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça détruit. Et c'est ça, ça détruit l'Église, ça détruit ta personne, ça détruit les gens autour de toi. Ecclésiaste 12, verset 13, je vais vous le dire dans la sommaire. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. Là, c'est la conclusion d'Ecclésiaste, de Salomon. Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est l'essentiel. Dans cette traduction-là, c'est là l'essentiel pour l'homme. Sois rempli de sagesse pour Dieu, obéis à sa parole. Salomon a voulu boire, manger et se réjouir. Et il y a eu des conséquences qui ont été terribles pour lui et pour tout le peuple. Vous lisez, vous prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qui est arrivé au peuple aussi. Là. Et la Bible nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous connaissez bien la parole, hein? La Bible est claire. Si vous vivez selon la chair, Salomon il a voulu vivre selon la chair. La Bible, si tu vis de cette manière-là, tu vas mourir spirituellement. Ça ne veut pas dire que demain matin, tu vas être dans la tombe, là, mais tu vas mourir spirituellement. Donc, c'est pas en vivant selon la chair que la joie et la paix durables viennent, pas de cette manière-là. Salomon savait tout ça. Hein? Il savait qu'il fallait suivre, obéir à la parole de Dieu. Il savait tout ça. Puis il nous dit lui-même dans ses Écritures. Mais c'est une chose de savoir ce qu'on doit faire, et c'est une autre de le faire. Une grosse différence. On peut lire régulièrement, on peut lire la Bible, Dieu nous dit quoi faire. Vous savez, des fois, on peut donner un conseil, c'est ainsi. Il y a une personne qui demande beaucoup de conseils chez nous. Il vient souvent. On lui en donne. On lui donne des bons conseils. Mais ils n'écoutent pas. Il a scrappé deux autos dans l'espace. Un que tu as fait deux jours. Une Cadillac, il a scrappé en deux jours. On lui dit, faire attention à toutes ces choses, son argent. Mais vous savez, la personne, elle peut savoir. Je sais. Mais tu ne le fais pas. Si tu vas faire de plus. Il t'arrive ce qui arrive à Salomon. Un homme va moissonner ce qu'il a semé. Hein? Récolter ce qu'il a semé. Matthieu 5, 16. C'est triste que ça arrive. La personne dit, je sais. Mais il ne le fait pas. Matthieu 5, 16. C'est pourquoi Jésus dit, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos richesses, vos bonnes œuvres, et qui loue votre Père qui est dans les cieux. Qui n'a jamais dit, peut-être pensé, pourquoi je devrais faire du bien à cette personne-là? Hein? Vous voyez quelqu'un qui souvent, il demande de l'aide souvent, ou non, c'est la première fois peut-être aussi, pourquoi j'aiderais cette personne-là? Quel avantage ça va m'apporter à l'aider? Ou bien avoir cette pensée, je serai bon envers lui si lui est bon envers moi. Est-ce que c'est une pensée qui vient de Dieu, ça? C'est une pensée qui est charnelle. Quand on a ce genre de pensée-là, c'est une pensée qui est charnelle. Ça ne vient pas de Dieu, c'est un comportement charnel. Nous devons avoir des bonnes raisons pour faire du bien. Ça ne prend-tu une bonne raison? Ah, je n'ai pas une bonne raison pour l'aider. La réponse est non. Hein? On ne doit pas avoir, nécessairement avoir des bonnes raisons. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2.10, c'est là-dessus qu'on regarde ce matin, nous sommes créés pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Dieu ne l'a pas préparées, on a été créés pour ça. Le bon samaritain qu'on voit dans Luc 10, 30 à 37, on lira pas, avait-il des bonnes raisons d'aider l'homme qui était à moitié mort sur le long de la route? Est-ce qu'il y avait des bonnes raisons d'arrêter pour aider cet homme-là? Hein? C'était-tu avantageux pour lui? Ça va-tu lui rapporter des sous, ça? Une renommée? Cet homme-là, le Samaritain, qu'on appelle le bon Samaritain, il allait à Jéricho, puis il vit un homme qui était abandonné sur la route à moitié mort. Il n'était pas le premier à le voir. Il avait passé des religieux avant. Puis les religieux, bien, ils n'ont pas porté secours. Ils n'ont pas arrêté. Alors, pourquoi moi j'arrêterais? J'étais un homme ordinaire, puis les religieux n'ont même pas arrêté. Hein? Je n'ai pas une bonne raison. Les autres n'ont même pas arrêté. Pourquoi que je l'aiderais? En plus, ça répète un guet-apens. Ils l'ont laissé là à moitié mort parce qu'ils ont caché des branches, puis ils attendent pour voir si quelqu'un va s'arrêter. Puis là, ils vont sauter sur moi. Puis là, ça va être moi qui vais en manger une. Hein? Et c'est sûr qu'il aurait pu dire, « Ouais, non, je ne fais pas ça. » Puis en plus, on voit qu'il s'en allait, il avait été pressé, il y avait une place qui s'en allait à Jéricho. Jéricho, je pense. Et ça va me mettre en retard. On voit quelqu'un sur la route, hein, il a fait un flat, comme on dit, une crevaison. Et si j'arrête d'aider, puis il mouille, en plus, il pleut. Ça va me mettre en retard, puis je vais tout prendre. Alors, je n'arrêterai pas. Hein? C'est ça? Puis en plus, ça ne risque de nous coûter des sous. Il aurait pu avoir ce genre de pensée-là, le Samaritain, mais il ne l'a pas eu. Qu'est-ce qui animait son cœur pour qu'il s'arrête, tandis que des hommes qui enseignaient la parole de Dieu n'ont pas arrêté? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? On voit dans Luc 10, 33. Luc 10, 33. Il est écrit, « Mais un Samaritain qui voyageait était ému, étant venu là, fut ému de compassion. » Lorsqu'il l'a vu. On voit pourquoi il l'a aidé. Il avait la compassion du Seigneur dans son cœur. La compassion, c'est quelque chose, c'est un amour qui te poigne assez, qu'on dirait que ça te poigne dans les tripes, puis ça vient de Dieu. Tu ne peux pratiquement pas t'empêcher d'aider cette personne-là qui est à terre, qui est mal pris. Quand la compassion de Jésus est en nous, nous agissons comme Jésus. Il ne s'est pas esquivé à l'appel de son Père pour venir sur terre, pour venir nous sauver. Hein? C'est la compassion que Jésus avait dans son cœur. Est-ce que Jésus avait des bonnes raisons pour venir nous sauver? N'avais-tu une bonne raison pour venir nous sauver? Est-ce que vous connaissez une bonne raison, humainement parlant? Est-ce qu'on était des bonnes personnes? On méritait, hein, que le Seigneur vienne nous sauver. Hein? Hein? Et Jésus n'avait rien à faire, il s'ennuyait, il va aller sauver. C'est tout ça? Non, hein? C'est la compassion. Faites des recherches, il y a tellement de définitions pour ce mot-là, mais c'est quelque chose qui te pogne, je dirais, dans les tripes, là. Tu ne peux pas t'empêcher. Quand tu vis près de Dieu, là, comme on a vu tantôt, tu vis toujours, jour par jour, près de ton Papa Céleste. Cette compassion-là vient un peu comme Moïse, qui se tenait près de Dieu, son visage rayonnait, hein? Mais nous autres aussi, quand on est près de Dieu, on a toutes ces choses-là qui s'en viennent en nous, là. Et puis c'est ça qui nous fait agir. Mais il faut lire la parole, prier, comme on a vu dans notre verset tantôt. C'est-à-dire toujours prêt, se fréquenter des réunions pour qu'on s'assoie vivant dans notre cœur. Sans compassion, nos œuvres seront accomplies froidement ou par obligation. Ouais, je vais le faire, mais je te dis que ça ne me le dit pas. Hein? Ça, ça ne vient pas de la compassion de Dieu. On a vu tantôt qu'il y a des œufs qui vont brûler. Hein? Quand c'était fait selon la chair, ce n'est pas fait par la foi, par amour, ça va brûler. Si je dis, ouais, je vais le faire un matin, je vais aller prêcher, là, mais ça ne me le dit pas. Hein? Pensez-vous que ça aimerait ça? C'est sûr qu'on fait un ménage un matin. Là, hein? Vous avez passé la mort, puis le balai, ouais, je le fais, mais ça ne me le dit pas, ben. Hein, pensez-vous que le Seigneur appréciait ça? Non. Hein? C'est pas comme nous autres. Vous avez levé un matin, là, vous êtes en train de faire la barbe. Moi, je dis, vois l'église, mais je te dis, il y aurait eu d'autres choses à faire. Le Seigneur, il nous entend. Hein? Il nous entend. C'est sûr qu'ils ont descendu loin un matin là, pour nous voir. Là. Hein? Certains qui devaient chanter en descendant, d'autres, tout heureux. Hey, de quoi vous? Ah, mais ils ont peut-être bien loin, le Saint-Vanoir. Ils ont peut-être fait deux six bouts là. Hein? Mais le Samaritain l'a fait par amour. Ses gestes ont contribué à la restauration de cet homme-là. Voyez-vous, on peut tantôt, comme je vous montrais l'image, là, tu tends la main à quelqu'un, ça la remet sur le chemin. Hein? Un geste comme ça, ça l'a remis cet homme-là sur le chemin. Il sera mort probablement. Un geste, des fois, d'amour, quand tu arrêtes, ça peut avoir changé la vie de quelqu'un. Un sourire, une serveuse qui est marabout, là, hein, tu lui dis un sourire. Quelques bûches de pas de paille comme hier, j'ai de nos gens, là, peut-être que ça peut avoir, que ça va lui rappeler. Rappelons-nous, ça ne prend pas des gros gestes, des petits gestes d'amour, puis c'est apprécié. Aller visiter quelqu'un à l'hôpital ou chez eux, des petits gestes d'amour, prier, tu le rencontres. Des fois, c'est dur. On n'a pas toujours des mots pour encourager quelqu'un, mais une petite tape sur la peau. Je ne t'oublie pas, je prie pour toi. Hein? C'est toutes ces choses comme ça. Jean 14, 12. Notre dernier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. On parle de faire des bonnes œuvres. Là. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et, tout est inversé. Hein? Jésus nous dit, celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que j'ai faites. C'est quelque chose, hein? Il m'a fait des œuvres plus grandes que j'ai faites. Jésus a transformé l'eau en vin. Es-tu quelqu'un qui est capable de faire ça? Levez la main. Je ne penserais pas. Hein? Jésus lisait dans les pensées des gens. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire ça? Il dit que vous allez lire plus que ça que ça veut dire. Jésus a guéri toutes les maladies. Moi, je vous dis, avoir ce don-là... comme Jésus, il y a plusieurs places que j'irai visiter direct après-midi, tout de suite. Vous ne verrez, je ne resterai pas longtemps chez vous, parce qu'il y en aurait plusieurs à visiter. Je connais pas mal tout le monde ici. Là. Il y en a qui auraient besoin d'une visite comme ça. Mais il faudrait que je ferais la volonté de Dieu, par exemple. Hein? Je ferais la volonté de Dieu. Jésus a nourri des milliers de gens. Jésus a marché sur l'eau. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Quand je vois ce passage-là, quand Jésus a marché sur l'eau ou que Pierre a marché sur l'eau, je pense toujours à la fois qu'on était chez Luc et Loris. Il y avait un camping, il y avait un beau lac, Luc. On était à l'autre bord du lac, les femmes étaient de l'autre côté. Et là, on parlait de ça. Il a marché sur l'eau. J'ai dit à Luc, j'ai dit, vas-y le premier, puis si tu passes, je vais y aller après toi. Il est croyant. On avait ça, on fait des petites farces. Luc, maintenant, il se réjouit dans. En présence de Dieu. Hein? Je ne sais pas s'il va se rappeler de ça, mais qu'on se voit. Est-ce qu'on est capable de faire plus que le Seigneur a fait? C'est des œuvres plus grandes. Certes, Dieu a accordé des dons à l'Église, c'est sûr. Mais ici, je pense que Jésus parle de faire des œuvres qui conduiront les gens à placer leur foi en lui pour qu'ils soient sauvés. Hein? Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Les miracles de Jésus étaient toujours pour conduire les gens à placer leur foi en lui. nous voyons les œuvres plus grandes que l'Église a fait aussi dans le livre des Actes, on voit ça, puis jusqu'à aujourd'hui. Après le départ de Jésus, il y a eu plusieurs conversions. Il y a eu des mille puis des mille. Une fois, je pense, c'est 3 000 conversions. Et je ne pense pas que ça allait arriver dans le temps de Jésus. L'Évangile s'est répandu dans le monde entier. Et à l'époque de Jésus, ce n'était pas ça encore. Savez-vous combien il y aurait de chrétiens dans le monde présentement? J'ai été voir sur Google, j'ai fait une recherche. Comment vous pensez qu'il y a de chrétiens sur Terre? 2,5 milliards, il semblerait. Je ne sais pas ce qu'ils calculent tous les gens qui confessent ces choses, mais ils disent qu'il y en aurait 2,5 milliards. On serait pas mal. Je pense qu'il y en a ici beaucoup. Hein? Possible. Vous vérifierez ça. On va les compter. Hein? On va partir pour me dire qu'on va les compter. Dieu nous offre des occasions pour participer à son œuvre. Il nous invite. Vivre dans le plan que Dieu nous a pour notre vie va nous apporter, comme je vous dis tantôt, la joie. Ça va nous apporter beaucoup de bénédictions puis une transformation de notre caractère. Mais notre plus grande joie, ça va être quoi, pensez-vous, si on fait l'œuvre de Dieu? Ça va être de glorifier notre Papa Céleste. Dire que les gens de l'Église de Saint-Just, de Lévis, d'un peu partout, ces églises-là, ils glorifient le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'on mette cette parole en pratique. Amen.